L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et on va parler ce matin du fonctionnement de la justice et nous recevons le procureur général Camille Miansoni. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin alors que les audiences solennelles de rentrée à la fois de la Cour d'appel et du tribunal de première instance se sont tenues vendredi. C'est toujours un moment important pour la justice devant les autorités civiles et militaires.
Alors les audiences solennelles, c'est vraiment une tradition judiciaire, une tradition ancrée dans le fonctionnement de la justice française. Ça existe depuis très très longtemps et il y a des études très poussées qui expliquent comment on les appelait les mercuriales à une époque très ancienne. Et aujourd'hui, donc, tous les ans, c'est une prescription inscrite dans le code de l'organisation judiciaire. Chaque année, doivent se tenir dans les cours et tribunaux de France des audiences solennelles. Alors, au-delà de la tradition, du rituel et de l'ancrage historique, c'est aussi l'occasion de rendre compte à la cité de ce que nous avons fait, de ce que nous avons accompli comme activité judiciaire, de ce que nous avons fait des moyens que l'État met à notre disposition, que la nation met à notre disposition. Et en cela, c'est répondre à une exigence qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui indique que les organismes publics, les autorités publiques doivent rendre compte des deniers mis à leur disposition pour le fonctionnement des services publics.
Et vous profitez de cet auditoire pour passer aussi un certain nombre de messages. Vous avez d'ailleurs pris la parole et vous avez insisté sur la notion d'état de droit. Pourquoi avoir choisi cette notion ?
Alors, les audiences solennelles, au-delà donc du caractère historique, du fait qu'on doit rendre compte de la manière dont nous avons exercé notre activité au cours de l'année écoulée, c'est aussi l'occasion de développer des thématiques particulières en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui fait débat dans la cité. Et en effet, la question de l'état de droit est une question qui est dans le débat public. Dans le débat public, il m'a semblé important d'y revenir, de dire qu'est-ce que c'est, et de dire fondamentalement, alors on peut en donner des définitions multiples, mais surtout de préciser qu'il s'agit d'un héritage à la fois culturel, historique, de civilisation, mais qu'au quotidien, c'est ce qui fait que la vie en société soit possible. Et comme je l'ai indiqué dans mon propos, c'est ce qui fait que votre voisin puissant ne vienne pas s'accaparer de votre bout de terre à côté. Vous n'avez qu'un seul rempart dans une société organisée, c'est l'état de droit. Et donc, ça doit être défendu. Et j'ai fait la différence avec l'état du droit. L'état du droit. Le droit peut changer. Le droit a vocation à évoluer en fonction des nécessités du moment, de l'évolution des mœurs, mais l'état de droit, c'est-à-dire que la conviction et l'ancrage déterminé que les principes ne peuvent pas être bouleversés, ça, c'est un héritage qu'on doit défendre.
Vous le disiez, un lien avec l'actualité, c'est un lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient ou avec ce qu'on a connu en 2024 en Nouvelle-Calédonie, ou les deux ?
Oh, c'est l'actualité, elle est partout. En France métropolitaine, en France hexagonale, la question de l'état de droit est constamment posée. Parfois, on considère que l'état de droit est un carcan, parce que ça empêcherait d'avancer, parce que ça empêcherait de construire, parce que ça empêcherait d'apporter des réponses aux difficultés de la cité. Mais c'est aussi la situation internationale. Tout le monde voit bien que le fait de fouler aux pieds les règles qu'on s'est données, ça ne va pas dans le sens de la stabilité de la société internationale.
Et vous avez été très critique également à l'égard de ce rapport de la Commission consultative des droits de l'homme qui épinglait en quelque sorte la justice dans la gestion des émeutes en 2024. Pourquoi avoir choisi de reparler de ce sujet lors de votre prise de parole ?
J'étais très étonné en réalité. J'étais étonné par plusieurs choses. D'abord, la critique, elle est nécessaire. Que des institutions comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme reviennent sur ces événements et portent un regard critique sur la façon dont les choses ont été faites, c'est tout à fait nécessaire et même indispensable. En revanche, il faut de la nuance, parce que ceux qui ont été aux manettes, j'y étais pas, donc je le dis avec beaucoup de distance, ceux qui étaient aux commandes de cette situation, ceux qui ont œuvré pour que la paix et la tranquillité reviennent, ceux qui étaient quotidiennement, en direct, avec beaucoup de responsabilités, à prendre des décisions, dans le feu de l'action, ont eu beaucoup de sang-froid, beaucoup de distance, beaucoup de courage, et je rends hommage à tous les acteurs, que ce soit le haut-commissaire de l'époque, les commandants de la gendarmerie, la direction de la police nationale, mais aussi et surtout sur le plan judiciaire, le procureur de la République et mon prédécesseur, le procureur général. C'est la première chose. La deuxième chose, j'étais très surpris, très étonnant, parce que vous regarderez cet avis, je regardais les personnes qui ont été auditionnées. Et je constatais qu'aucun avocat du barreau de Nouméa n'a été auditionné. C'est très surprenant. Il y a des avocats de France hexagonale qui ont été entendus. Je dis, mais pourquoi ils n'ont pas auditionné les avocats qui sont des témoins et des acteurs, qui ont été des témoins et des acteurs directs de la gestion judiciaire de cette affaire. Donc je trouve que la critique sévère qui a été prononcé à l'égard de la manière dont les choses ont été faites, je trouve excessive. Il me semble qu'il aurait fallu un peu plus de nuances. C'est la raison pour laquelle je suis revenu dessus.
Enfin, dernier point, peut-être parmi les points saillants de votre prise de parole, il y a l'une des particularités de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce lien entre le monde judiciaire et la coutume. Là aussi, vous avez tenu à en parler parce que ça fait partie de vos axes prioritaires.
C'est un sujet essentiel. Nous sommes dans une société où il y a une coutume, des règles coutumières auxquelles les personnes se réfèrent. Et nous avons une justice étatique qui doit appliquer le droit. Et il y a un chemin, je n'ouvre pas ce chemin, il existe déjà, d'essayer de trouver des points de convergence. Et il y en a, des points de convergence entre des règles coutumières auxquelles les personnes se réfèrent et les règles du droit. Il y a un travail ancien qui existe, il y a des assesseurs coutumiers en certaines matières, il y a des assesseurs citoyens qui siègent dans les tribunaux, et puis le tribunal de première instance, notamment, a entrepris un travail important en collaboration avec les autorités coutumières pour faire en sorte que ces règles coutumières trouvent des points d'appui, des points de rencontre avec le droit. Je pense notamment à ce qui est mis en place, les tiges en terre coutumière, les mécanismes de médiation, etc. Et donc, ça reste un sujet important, mais ce que je voulais surtout signaler, c'est que la coutume ne doit pas être le prétexte pour échapper à la loi. La loi, elle est là, elle s'applique à tous. Nous ne sommes pas dans une concurrence entre la coutume et le droit. Le droit et la coutume sont des systèmes de valeurs, des systèmes normatifs qui doivent trouver une convergence, mais la justice a un socle de référence, un socle de règles qui doivent s'appliquer.
Et comment on arrive à concilier, à faire coexister ces deux droits, le droit coutumier et le droit français ?
C'est à la fois un travail au quotidien, il faut des échanges, il faut des concertations, il faut aussi parfois de l'adaptation du droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque le travail de concertation, d'échange est assez abouti, on peut ensuite envisager des réformes, de changements de la loi pour adapter la norme. Par exemple, alors parfois il suffit simplement de changer des pratiques. Instituer un travail d'intérêt général en terre coutumière, on n'a pas besoin de changer la loi. Il suffit simplement qu'on comprenne comment fonctionnent les institutions coutumières. Il suffit qu'on explique au territoire coutumier comment cette institution qui est le travail d'intérêt général peut avoir une utilité, y compris pour les personnes de la coutume elles-mêmes, les personnes qui sont au cœur de ces territoires, pour arriver à trouver des points d'appui, des points de convergence. Donc c'est de l'échange, de la concertation, de l'ouverture, et on en fait beaucoup, on est très ouvert, on échange, on essaie de comprendre, et si besoin est, on propose qu'il y ait des modifications textuelles.
Et cette meilleure compréhension à la fois du monde coutumier et de l'autre côté du monde judiciaire, pour vous, c'est un levier important pour lutter contre la récidive. On pense notamment aux tiges en milieu coutumier. Est-ce que pour vous, c'est prometteur les différentes expérimentations qui ont pu avoir lieu en Nouvelle-Calédonie ces derniers temps ?
C'est effectivement prometteur, c'est effectivement très important, parce qu'on ne peut pas ignorer un système de valeurs auquel les gens se réfèrent. Et si on veut construire dans la qualité, si on veut administrer des réponses judiciaires qui ne soient pas seulement des réponses formelles, parce qu'on pourrait se contenter de prononcer des peines, de prononcer des dispositifs, mais s'il n'y a pas d'adhésion minimum à ces dispositifs, l'efficacité reste très faible, voire insignifiante. Donc il faut arriver à essayer de faire comprendre la nécessité de ces règles, et ce dialogue, notamment sur ces questions de coutume, est très important pour essayer de parvenir à des solutions qui soient pas seulement des jugements prononcés, mais des jugements exécutés, et surtout qui soient efficaces, notamment au regard de la récidive.
Monsieur le procureur général, revenons-en au bilan de l'activité judiciaire en 2025. On voit que cette activité, finalement, est relativement conforme à ce que vous attendiez pour l'année. Le procureur de la République, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de première instance, a déclaré qu'on était passé d'une délinquance insurrectionnelle à une délinquance liée aux conséquences économiques et sociales de cette insurrection. C'est ce que vous constatez aussi, vous partagez ce constat ?
Alors, je laisserai monsieur le procureur de la République commenter son propos, mais ce que je comprends de son discours, c'est qu'effectivement il y a eu une phase de pic insurrectionnel, et cette insurrection a provoqué des désordres, y compris des désordres sociaux, dont on voit aujourd'hui les conséquences. Et je partage cette analyse, en effet, on voit arriver une délinquance d'appropriation, une délinquance de survie parfois, et qui est en partie la conséquence directe de ce qui s'est passé en 2024.
Aujourd'hui, avec le nombre de dossiers qui arrivent sur vos bureaux, la justice calédonienne a les moyens de fonctionner. On voit qu'il y a notamment une nette augmentation du côté de la cour d'assises. On est passé de 24-25 dossiers sur les années précédentes à 33 en 2025. Est-ce que vous avez les moyens de fonctionner aujourd'hui ?
Alors, nous avons obtenu quelques moyens supplémentaires en 2025. Monsieur le Premier Président et moi-même sommes souvent montés à Paris pour aller négocier, discuter les moyens. En magistrat, on en a obtenu au siège comme au parquet, un troisième cabinet d'instruction qui va ouvrir en septembre, un dixième poste de magistrat au parquet de Nouméa qui va être installé en septembre, un peu moins au niveau des greffes. Nous avons les moyens d'y faire face. De toute façon, c'est une nécessité pour nous de répondre et de tenir surtout les délais. Nous avons des délais qui sont corrects, et notre objectif, c'est de les conserver, de ne pas laisser déraper ces délais. Et effectivement, notamment aux assises, vous savez qu'au plan national, il y a une vraie préoccupation sur la justice criminelle, avec des délais qui ne sont pas les nôtres, mais il y a des endroits où les délais sont vraiment excessifs. Et donc, notre exigence à nous, et le message que nous faisons passer à nos collègues, notamment en première instance, et surtout en ce qui concerne la cour d'assises, c'est d'arriver à conserver ces délais et de faire en sorte que les dossiers sortent pour qu'ils soient jugés dans des délais raisonnables.
Et pour cela, il est question que les sessions d'assises durent plus longtemps également pour passer plus de dossiers. C'est une piste de faire durer ces sessions plus longtemps ?
Sans doute. On a plusieurs choix. Soit on en multiplie les sessions, soit on élargit un peu plus les planches de ces sessions d'assises. Très probablement qu'on va arriver à cette situation, mais on suit ça de très près. C'est vraiment de l'artisanat. Vous voyez, on regarde ça. Où est-ce qu'on en est ? Quels sont les stocks qui sortent ? Et vous avez raison. Très probablement, dans les prochaines sessions, risque d'être un peu plus étendu, c'est-à-dire qu'on va élargir, mettre un peu plus de dossiers pour ne pas prendre trop de délais.
En quoi c'est important d'être jugé rapidement, qu'il y ait peu d'espace-temps finalement entre la commission de l'infraction et le jugement rendu ?
C'est une nécessité. Vous savez, quand vous jugez une affaire, que ce soit en correctionnel ou aux assises, des années après, la décision qui va être rendue risque d'être en décalage avec la réalité des faits. D'abord, les justiciables n'y s'y attendent plus, les victimes n'y croient plus. Ils disent « Ah ben ça y est, on a oublié, on nous a oublié, l'affaire a été enterrée ». Et puis enfin, quand vient la décision, on a l'impression d'une décision qui tombe un peu de nulle part. Donc la proximité de la décision a du sens vis-à-vis des victimes, mais ça a aussi du sens vis-à-vis de ceux qui sont jugés. C'est la nécessité de faire coïncider la décision pénale avec la fait, et pour cela la temporalité est très importante.
Et justement, il a aussi été question des victimes lors de cette audience solennelle de rentrée, notamment sur l'accompagnement des victimes et une meilleure prise en charge. Là aussi, c'est un travail qui va être lancé en 2026 ou peut-être poursuivi.
Alors, j'ai effectivement pris acte de cela. Il y a une préoccupation autour de l'accompagnement des victimes. On a des marges de progrès. Beaucoup de choses ont été faites. Je pense en particulier aux victimes de violences intrafamiliales. Le tribunal de première instance, le procureur de la République et l'ensemble des partenaires locaux ont mis en place pas mal de dispositifs qui permettent d'accueillir, d'accompagner les victimes. Mais on peut encore aller plus loin. On peut vraiment encore aller plus loin, notamment dans la phase judiciaire. Et c'est ce travail qui va être entrepris et qu'on va accompagner avec nos collègues de première instance.
Si on devait résumer, enfin, pour une dernière question, quelles sont les grandes priorités pour cette année 2026 ?
Les sujets sont déjà campés, malheureusement, depuis longtemps. On a la question des mineurs qui reste une question fondamentale. Il faut qu'on trouve les moyens d'un meilleur accompagnement des mineurs, que ce soit des mineurs au titre de la protection ou des mineurs délinquants. La question de la prison est toujours là. Elle n'est pas réglée. Nous travaillons pour faire en sorte que la surpopulation carcérale soit contenue, maîtrisée ou peut-être même au mieux atténuée grâce à des dispositifs alternatifs. Nous travaillons avec plusieurs acteurs du territoire pour essayer de trouver des outils. On pense notamment à la nécessité de mettre en place un centre de semi-liberté. Nous travaillons aussi avec des institutions du territoire pour offrir ce qu'on appelle des places de placement extérieur avec un accompagnement au titre de la formation, au titre de la prise en charge éducative, au titre de l'insertion professionnelle, au titre des addictions, etc. Et tout ce travail doit se poursuivre et c'est de nature à tempérer, à réduire la pression qui est exercée sur le centre pénitentiaire de Nouméa.
Alors que Koné, lui, se porte bien et c'est une volonté de le préserver aussi. Il n'y a pas de surpopulation carcérale à Koné.
C'est un établissement qui a une vocation autre. C'est un centre de détention, donc c'est pas les mêmes publics en principe. Et effectivement, il y a une stabilité des effectifs qui est voulue. Et puis c'est pas un établissement de sécurité. Ça a une autre vocation et les deux doivent. Entre le centre de détention et le centre pénitentiaire, on doit trouver un équilibre.
Merci beaucoup, monsieur le procureur général, d'avoir été avec nous ce matin.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.
Cette interview sera disponible en réécoute sur notre site internet. Vous pourrez aussi la visionner d'ailleurs en version web télé, le www.rrb.nc.